la web radio du Centre évangélique.
Excellent réveil, bienvenue ici en coulisses, nous sommes au Centre évangélique. Centre évangélique, c'est un événement qui se passe du côté de Paris dans le 12e arrondissement, espace Charenton. Et on est ici pour vous faire vivre finalement les coulisses de cet événement. À mes côtés, hein, depuis hier, eh bien il y a... Alors je commence par ma droite ou par ma gauche?
La gauche.
Ma gauche, du coup, Cédric, ouais. Cédric Kessler de Radio Arc-en-Ciel. Il y a aussi Jean-Philippe, donc de Radio Oméga.
Allez, on applaudit Jean-Philippe.
Bravo, bravo.
C'est sympa, le mardi matin, on est toujours sympa.
Et nous avons un invité qui, pour démarrer sur les chapeaux de roue, qui est David Alonso, chargé, même plus que chargé, directeur de la communication du CEL. Ça va bien?
Ouais, très bien, merci Nat.
Co-organisateur, j'allais dire, hein, de cet événement, on va revenir dans un instant.
Tout à fait.
Est-ce que vous savez quel jour nous sommes?
Mardi.
Mardi, c'est bien.
23 novembre.
Le 23 novembre, généralement, dans une matinale de radio, on commence par l'éphéméride pour savoir un petit peu comment ça se passe. Eh bien, nous sommes le 327e jour de l'année. Mmh. Et si on calcule bien, dans un mois et un jour, on sera tous à la veillée de Noël. Vous avez vos cadeaux?
Je crois que j'ai...
Partiellement.
Salut. Chérie, si tu nous écoutes.
Oui, oui, oui. Eh ben, si vous voulez des idées cadeaux, vous venez au Centre évangélique encore aujourd'hui, hein. Ça, c'est encore là toute la journée. Vous allez voir, il y a de la littérature, il y a de belles choses. Et ouais, on vous invite à venir si vous entendez, si vous suivez ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Voilà, Cédric, et Jean-Phil, on a que notre invité. On va lui poser quelques petites questions. Oui. Son rôle ici au Centre évangélique.
Oui, effectivement, hein. Donc, David Alonso, directeur du CEL. Directeur, oh, j'ai fait une promotion, tiens, pardon. Directeur de la communication du CEL. Effectivement, le CEL qu'on connaît bien via le parrainage d'enfants dans une dynamique de solidarité internationale. Mais est-ce qu'on peut quand même, voilà, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un peu l'objectif de ce plateau, de mettre un coup de projecteur sur la centaine d'œuvres présentes ici, dans le cadre de Centre évangélique, peut-être rappeler effectivement le CEL et tout particulièrement peut-être cette action de parrainage qui est bien connue.
Rappelons. Oui. Rappelons, Cédric. Le CEL, une association humanitaire qui a été créée il y a une quarantaine d'années, qui a été créée au Centre évangélique.
Il y a plein de choses qui ont été créées finalement ici, on s'en rend compte. Hein.
Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un lieu où les gens se croisent. Il y a plein de débuts ici.
Ah, c'est intéressant. On y reviendra parce que c'est intéressant.
Ah, c'est vraiment ça. Et le CEL a été créé donc au sein de l'Alliance évangélique française, donc qui est aujourd'hui le CNEF. Et c'était vraiment la volonté d'avoir une réponse des évangéliques à des situations humanitaires internationales, par un soutien aux églises évangéliques sur le terrain. Donc la raison d'être du CEL n'est pas d'être une structure humanitaire avec quelqu'un qui un jour se lève, comme ça existe très souvent, mais vraiment d'être le lien entre les chrétiens d'ici qui soutiennent les chrétiens là-bas, qui ont eux-mêmes leur propre action sociale. En fait, comme nous dans nos églises, on a nos fameuses 1901. Bon là, vous les Alsaciens, vous comprenez pas ce dont je vous parle, mais c'est le Rome Zélance tout ça. Mais donc effectivement, on est là dans un schéma d'entraide. C'est pour ça que ça s'appelle entraide et de liaison. Mmh. Et c'est vraiment faire le lien entre les chrétiens d'ici et les chrétiens de là-bas. Et effectivement, quatre grandes missions. Le parrainage dont tu as parlé, qui représente à peu près les deux tiers de notre activité. C'est aujourd'hui 11 200 enfants qui sont parrainés.
Et c'est un chiffre extraordinaire. Hein.
Alors pour le secteur, oui. Effectivement, les plus grandes structures françaises doivent être aux alentours de 60, peut-être 50 à 60 000. Et les évangéliques représentent pas aujourd'hui 66 millions de Français. Donc effectivement, ça dit quelque chose sur la façon dont ce sujet a été saisi par les chrétiens évangéliques français. Le deuxième grand secteur, c'est les projets de développement, qui soutiennent aujourd'hui entre 90 et 100 projets par an. Et là, on est dans une approche plus communautaire, on n'est pas uniquement centré sur un enfant dans sa famille et dans sa communauté. Le troisième secteur, c'est les urgences. On n'en est pas un urgentiste, hein. Si vous voulez des urgentistes, ici, il y a MEDER, je vous invite à aller les voir. Nous, c'est nos partenaires qui, en fait... font face aux difficultés du
sont
terrain.
Sur le terrain,
exactement,
sur place,
hein. Et nous, on les aide à reconstruire ce qui a été déjà cassé. Et puis, un dernier point qui correspond aussi à notre présence ici, c'est la sensibilisation des chrétiens français aux questions de pauvreté. Et donc, d'encourager les chrétiens français, en fait, à s'engager dans les domaines où ils pensent que leur appel est présent, pour pouvoir faire reculer, au nom de leur foi, cette pauvreté. Et on a vécu ensemble, 3XL, dans cette logique-là, il y a quelques mois.
Ouais. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre ces œuvres, comme le fait le Centre évangélique, l'une à côté des autres. Ah, ouais. Et on voit aussi bien les complémentarités, comme ça a été énoncé à l'instant avec MEDER. On voit effectivement pas deux organismes qui font la même chose, mais bien des complémentarités très importantes et très intéressantes par rapport à des actions concrètes sur le terrain.
Oui, et puis même si on avait des organismes qui faisaient la même chose, ce serait pas très grave, en fait. Parce que ce sont des acteurs. Ce qui compte, en fait, c'est la relation. On parle beaucoup d'aimer son prochain, mais il faut aussi aimer son prochain organisation. Il faut s'apprécier les uns les autres, pas uniquement en tant qu'individu, et puis jouer la séparation lorsqu'on collabore, mais il faut faire des collaborations dans lesquelles, effectivement, on renforce constamment l'Église. Notre vrai cadre, c'est l'Église. Nous, on n'est que des œuvres d'église, entre guillemets, et à ce titre-là, on doit savoir quelle est notre place et comment on s'articule avec tous ceux qui sont présents ici.
Alors, est-ce qu'on peut revenir justement sur cette info qu'on apprend à l'occasion de ce plateau, le sel qui finalement se constitue, se crée, s'imagine, si j'ai bien compris, à l'occasion d'un rendez-vous comme celui qu'on vit actuellement, à savoir le centre évangélique, c'était il y a 40 ans, donc on, ouais. on rappelle, on est là pour le coup physiquement avec une centaine d'organisations, d'œuvres. Alors, il y a des libraires, il y a des organisations de jeunesse, il y a de nombreuses ONG également, on se retrouve et c'est comme ça que le sel a été créé. Est-ce qu'on peut avoir l'histoire dans ce moment ?
L'histoire, ça fait en deux temps. Il y a toujours un off et un on en fait. Hein. Le off, c'est simplement l'Alliance évangélique qui voit en son sein un service commencer à apparaître pour aider face à des crises que nous avions à l'époque en Afrique du Nord avec le Biafra et toutes ces zones-là. Et puis finalement, d'une réponse ponctuelle de chrétiens de différentes dénominations, il y a quelque chose de plus régulier qui s'est mis en place. Il a fallu le formaliser. Et l'association 1901 a été créée et lancée ici, officiellement, lors d'un centre évangélique, pas ici, pas à Charenton, mais effectivement dans le cadre de cet événement, et lancée en 1980, après deux ans de travail. Et c'était très important déjà à l'époque de montrer que le sel, c'était bien l'émanation de cette famille qui est présente ici. Alors c'est une vraie famille, donc vous avez toute cette diversité, d'accord, pas d'accord, les extrêmes de chaque côté, mais c'est une vraie famille. Et en ce sens-là, le sel est au cœur de cette famille, en fait. On leur appartient.
Est-ce que dans l'édition 2021 que vous avez vécue, celle hier, il y a des connexions qui se sont faites nouvelles ou alors affermies ?
Alors, nouvelles, pas fondamentalement, parce que d'abord, ça fait longtemps qu'on est là. Et donc moi, j'étais là aussi depuis longtemps avant le sel. Donc on emmène avec nous aussi nos histoires, hein, très, très honnêtement. Par contre, que ça se renforce, que ça s'affermisse, qu'on imagine. Je pense que c'est un lieu où on se permet d'imaginer ce qu'on aurait envie de vivre ensemble demain.
Des choses concrètes ? Ou juste un vague renforcement ?
Non.
Petit jugement de valeur, là.
Je connais mon Jean-Philippe.
Non, mais parce qu'on le dit souvent, ah oui, ça fait du lien, tout ça, mais est-ce qu'il y a des choses concrètes qui sortent de ça ou pas ?
Avec toi, non.
Ou plutôt qui se défont, alors.
Défont, non plus. Non, c'est pour moi, ça. Alors je l'utilise pas, je prendrai jamais une décision ici. Parce qu'en fait, et je prendrai jamais une décision dans un événement, si tu veux, parce que c'est quand même un endroit où t'as toujours une accumulation d'énergie,
beaucoup d'émotions,
de dynamique et compagnie. Donc en fait, tu prends pas tes très bonnes décisions dans ces cas-là. Elles sont toujours super positives. Bon, sauf si t'es un vrai négatif de nature, mais donc vaut mieux éviter. Par contre, c'est le très bon endroit pour pouvoir concevoir, en fin de compte, et discerner. En fait, on n'a pas beaucoup de lieux de discernement en termes d'organisation, souvent. Et ici, tu peux discerner en dehors de ton organisation, avec d'autres œuvres, d'autres dénominations, et tu sens les choses, en fait. T'as pas beaucoup d'endroits où tu peux sentir comment un milieu fonctionne ou fonctionne pas. Et il faut pas forcer ça. Et effectivement, il y a toujours un excès qui est de se dire, ah, on a eu cette discussion-là, je reviens le lendemain et je fais signer le truc, quoi. En fait, avec ça, la réalité, c'est que souvent, t'arrives à quelque chose de très petit. Parce que dès que toute la dynamique, l'entrain s'est dégonflé, il reste plus grand chose, et puis la vraie vie t'a rattrapé. Moi, je préfère ici initier, discerner. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui apparaissent et je ne te les partagerai pas.
David Alonso, alors on a beaucoup de questions à vous poser. Une des questions, c'est entre 40 ans, la création du sel, et aujourd'hui, en 2021, la situation des enfants et de parrainage d'enfants, est-ce qu'elle évolue ? Est-ce que vous voyez plus de pauvreté ? Ou ça a évolué dans le bon sens ? Comment
alors,
ça se passe ?
C'est très, on va dire que c'est contrasté. Si on regarde la situation mondiale, la pauvreté a baissé très clairement, mais elle a baissé principalement grâce aux facteurs chinois, brésiliens et aux facteurs indiens en partie. Donc on n'est pas sur une baisse de la pauvreté généralisée au bénéfice de tous les pays qui étaient en situation de pauvreté, on est au bénéfice de quelques pays, mais qui étaient massifs, très clairement. Vous avez quand même aujourd'hui une classe moyenne en Chine qui est équivalente à la population européenne. Donc là, on est sur des phénomènes massifs. Par contre, sur les lieux où nous étions engagés, on avait vu la pauvreté reculer dans un certain nombre de pays, en particulier l'Afrique francophone, mais avec l'arrivée du Covid, c'est comme si on avait mis un immense coup de frein, voire on avait passé la marche arrière. Et tout notre souci, c'est que ça continue. Donc nous, on en voit ici les effets plus sanitaires et de cet aspect-là, mais le vrai souci du Covid dans les pays du Sud, c'est les impacts économiques. Et donc ça, effectivement, il y a un refroidissement très très réel. Donc la pauvreté, on peut dire que mondialement, elle a baissé. On a quand même vu il faut quand même voir les bonnes choses aussi. À un moment donné, mondialement, cette planète, en termes de pauvreté, elle va mieux qu'elle n'allait il y a une quarantaine d'années. Par contre, sur les territoires d'engagement, qui sont les nôtres en particulier, Afrique francophone, on est encore très loin du but. Là où il faut, je pense, équilibrer les choses, c'est que là, on a un regard qui est systématiquement concentré sur la pauvreté. Ce sont des pays aussi qui ont des richesses, et pas que des richesses minières. Ils ont des richesses aujourd'hui en termes de capacités, de compétences. Il y a des vraies économies, il y a des très beaux quartiers aussi. Si vous allez aujourd'hui au Burkina, vous allez au Mali, au Sénégal, vous avez des très belles choses aussi à voir. Notre sujet, c'est d'aider les chrétiens là-bas qui s'occupent de la partie pauvre. Comme chez nous. Comme chez nous, quoi. Et c'est vraiment pas une exclusive. Je pense que vraiment, moi, mon appel, c'est que les chrétiens s'engagent là où ils sont, face à la pauvreté.
Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues, hein, que nous, on a occidentaux par rapport à l'Afrique et à la réalité de l'Afrique. Et il y a aussi toute une série de communications, hein, qui est proposée par le CEL qui permettent un petit peu mieux de réaliser
Mieux, voilà. Il y a encore du boulot.
Ouais, bah, c'est vrai pour MEDER. On salue le travail de MEDER aussi, qui montre aussi des images de terrain, mais des vraies images de terrain.
C'est pas dans ce sens-là où je disais il y a un peu de boulot. Pour moi, je souhaiterais que nos donateurs et les publics qui nous suivent en général aient une vision plus équilibrée des pays que nous soutenons. Et je me rends compte à quel point la plupart des pays en développement ne bénéficient pas de la communication qu'aura New York, qu'aura une grande ville développée du Nord. Et dans les faits, le prisme, l'image qu'on en a est principalement communiquée soit sous le prisme de l'information médiatique sur différentes informations et souvent des scandales, de corruption ou d'autres choses, ou le prisme des humanitaires. Et dans les faits, c'est pas vrai. C'est une fausse vision de ces pays, quoi. Si on leur demandait qui ils sont en termes d'identité plus objective, on aurait beaucoup plus de diversité. Et ça, pour moi, c'est dans les prochaines années, c'est clairement quelque chose sur lequel le CEL va travailler. C'est que si on aime notre prochain, on aime les pays de nos prochains. Et à ce moment-là, on leur montre et on montre à nos publics ce qui est aimable dans ces pays. Pas que la partie pauvre, en fait. Et ça, je pense qu'on ne le montre pas assez.
Oui, tout ce qu'on peut apprendre aussi, hein,
exactement,
de ces cultures. Et toute dernière question, justement, si très, très concrètement, on veut soutenir le CEL, c'est quoi le moyen? C'est le parrainage? Qu'est-ce que vous...
Alors, le parrainage...
En une phrase. Ça veut rien dire avec David, une phrase. Hein.
Non, mais au moins, je l'ai dit.
Prends la respiration très longue. Donc, tu sais, pour 3 minutes de parole.
En 10 secondes. Vaut mieux parler en secondes avec David.
Vous venez de bouffer mon temps, les gars.
Merci beaucoup, David. On va passer
donc vous allez vous en rendre sur celfrance.org. Je pense que la meilleure des solutions, c'est d'aller sur celfrance.org. Je vous encourage aussi à aller sur la page YouTube du CEL. Vous avez quand même pas mal de différentes vidéos qui présentent nos activités. Et puis, laissez-vous guider. Très certainement. Nous, on propose. C'est vous qui ensuite... choisissez aussi en fonction de vos conditions de vie et de votre condition cadre familial. Le parrainage, c'est pas la réponse systématique à ce que vous attendez.
Okay. 8h13, on est en direct du centre évangélique. Oui, on vous donne l'heure en même temps. Vous voyez, nous sommes en vrai direct. Et Jean-Philippe va nous quitter pour un petit moment et on va retrouver un autre invité. David Alonso, vous restez avec nous juste après ça.
Phare FM, Radio Oméga et Radio Arc-en-Ciel font vivre en coulisses la web radio du centre évangélique.